Parce qu'au point de vue contraception, on a toujours parlé de la contraception des femmes. On n'a jamais parlé de la contraception pour les hommes. Et à ce sujet, moi, j'y tiens beaucoup.
Expliquez.
La femme supporte tout. Elle supporte la grossesse. Elle supporte l'allaitement, si elle allaite. Elle supporte les appareils, soit stérilets, soit PCR. Elle les supporte dans ses organes intimes. Elle supporte la pilule. Et s'il faut, hein, la réalité en arriver au... Comment on appelle ça? La ligature des trompes, elle supporte encore la souffrance. Et ces messieurs sont bien, bien tranquilles.
On reçoit aujourd'hui dans nos studios le jeune collectif Rennes antisexiste et trois de ses membres, Léo, Adrien et Camille. Vous avez organisé mardi dernier une permanence sur la contraception masculine, ou testiculaire, pardon. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
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 Vous venez d'entendre un extrait de l'émission Magazine 52 de 1973 sur la troisième chaîne de l'ORTF. On y entend le témoignage d'une femme qui nous parle de toutes les charges mentales et physiques que peuvent subir les femmes dans leur sexualité. Qu'est-ce que cet extrait vous évoque?
Bah, les grandes questions, bien sûr, ça évoque la question de la charge mentale et comment est-ce qu'elle se répartit dans la société, notamment entre les genres hommes et les genres femmes, les personnes qui s'identifient comme ça, aussi les personnes, bien sûr, transsexuelles et selon comment elles sont sexuées.
Un privilège masculin aussi de pouvoir échapper à cette question-là du fait d'une société patriarcale.
Cette femme évoque donc justement ses charges mentales. La contraception masculine, qui est le thème du jour, permettrait donc de libérer dans le couple les femmes d'au moins une charge. Est-ce que cette démarche donc pour un homme se fait dans une démarche féministe ou pour autre chose, pour autrement? Est-ce qu'il y a plusieurs volontés qui peuvent pousser à faire cette contraception masculine?
Il peut y avoir plusieurs volontés, mais nous, là, ce qu'on porte, c'est en effet de faire ça dans un cadre féministe ou au moins antisexiste, notamment en effet pour décharger les femmes ou les personnes qui d'habitude, en tout cas, se contraceptent. Et nous, on a envie de poser ce cadre-là.
Et on tient à l'appellation contraception testiculaire parce que nous, on essaye de... lutter contre le patriarcat et notamment la binarité de genre. Et du coup, on veut aussi intégrer les personnes qui ne se reconnaissent pas, qui se reconnaissent pas dans leur assignation de genre. Et du coup, en fait, des personnes transgenres peuvent avoir un pénis, des testicules et peuvent vouloir se contracepter aussi. Et nous, on tient à ce que nos espaces, ils concernent donc pas que les hommes cisgenres, mais aussi les femmes transgenres, par exemple, ou d'autres personnes. Et donc on tient à cette appellation de contraception testiculaire pour ça, pour une question d'inclusivité.
Vous, le modèle de contraception testiculaire que vous mettez en avant dans vos permanences, c'est la contraception thermique. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est? Parce que quand on entend ça, au premier abord, comme ça, on pourrait croire à un système de slip chauffant, mais c'est pas ça du tout.
Mais on parle aussi également de vasectomie, donc parce que notre pays est relativement en retard par rapport à d'autres sur cette pratique de contraception définitive. Et effectivement, non, c'est pas un slip qui chauffe, même s'il y a eu des prototypes à batterie à la naissance des recherches un peu sur cette contraception.
Mais oui, pour parler de cette méthode, en gros, l'idée, c'est de remonter les testicules pour qu'elles se rapprochent du corps, pour qu'elles redeviennent la température du corps, et ce qui empêche la spermatogénèse. Et du coup, pour ça, on utilise différents outils. Il va y avoir soit en effet un slip qui va nous permettre de remonter les testicules, soit un anneau qu'on appelle l'androswitch, qui fait un peu la même chose.
Donc la spermatogénèse, c'est la conception par le corps, la fabrication des spermatozoïdes. Et donc remonter les testicules dans le corps pour augmenter les degrés des testicules stoppe la spermatogénèse, en fait. Donc on se contracepte en réchauffant ces testicules, plus on porte ce dispositif, et en fait, la spermatogénèse s'arrête.
Il y a des contraintes quand même au port de cet anneau-là. Est-ce que vous pourriez m'en parler, par exemple, la régularité du port? Au bout de combien de temps on devient vraiment contracepté? Est-ce que vous pourriez nous donner tous ces détails-là?
Eh bien oui, c'est vrai qu'on ne devient pas contracepté comme ça, juste en portant le sous-vêtement, quoi. Ça, en fait, on crée des spermatozoïdes aujourd'hui pour les éjaculer dans 2 mois et demi environ. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut porter ces outils-là pendant 2 mois et demi, 3 mois, avant d'être réellement contracepté. Et du coup, Il y a des contraintes en effet de porter 15 heures par jour, c'est ce qui est préconisé, tous les jours, du moment qu'on a envie d'être contracepté, et on vérifie qu'on est effectivement bien contracepté à l'aide de spermogrammes. Du coup, l'idée c'est d'aller calculer, d'aller voir combien de spermatozoïdes il nous reste dans notre sperme, et de vérifier qu'on est effectivement bien, on a un taux qui est suffisamment bas pour se considérer contracepté.
Et puis on voudrait ne pas trop se cacher derrière le terme de contrainte également, parce que c'est une contraception qui effectivement recommande une façon de faire, hein, et qui par exemple a relativement n'a aucun effet secondaire sur le corps, et donc on dit contrainte, mais elle en a au même titre que toutes les autres méthodes de contraception, voire pour certains elle pourrait paraître tout à fait infime par rapport à d'autres.
Ouais, c'est ça, c'est que chaque méthode a ses contraintes. La vasectomie a la contrainte d'être plutôt définitive. La contraception thermique, le slip ou l'anneau a ses propres contraintes. Mais en fait, la question nous qu'on veut poser, c'est qui porte la contrainte, qui porte la charge de cette contrainte.
Vous proposez aussi justement des ateliers pour fabriquer ses propres anneaux de contraception, dont le 18 janvier qui vient là. Comment vous imaginez cela? Vous avez trouvé des outils ou des sources particulières pour fabriquer ces anneaux-là? Et comment est-ce qu'on s'assure du bon fonctionnement et du respect de la santé des utilisateurs après?
C'est une question de responsabilité et de responsabilisation. Et nous, notre dynamique antipatriarcale, elle n'est pas axée que sur la question de la contraception testiculaire, mais sur la question de la responsabilisation des hommes cisgenres en général. Et donc, c'est aussi ça qu'on accompagne, quoi. C'est comment on prend en compte le sexisme de la société, le sexisme intégré, et donc comment on se prend en charge soi. Et donc, en fait, s'il faut porter 15 heures par jour un dispositif, il faut le porter. Et si on ne le porte pas, si on a oublié de le porter une journée, on se considère comme non contracepté et il faut recommencer la méthode, quoi.
Vous proposez des ateliers de fabrication. Je crois qu'il y en a deux d'entre vous ici qui ont fait une contraception thermique. Est-ce que vous avez fait vous-même votre contraception, ou votre contraceptif plutôt?
Personnellement, je ne l'ai pas fait moi-même. Je les ai achetés, je les ai commandés à des personnes qui les fabriquent, mais plutôt d'ailleurs les premiers. Alors le premier, c'est un très cher ami qui m'en a passé parce qu'il en avait récupéré auprès justement de collectifs qui s'organisent autour de la contraception testiculaire. Hein, Thomas Boulou, pour le nommer, qui est dans le Finistère, dont j'en ai récupéré auprès d'eux, j'en ai racheté auprès d'eux. Et il s'avère que maintenant, on peut en trouver également... certaines personnes en fabriquent, plus ou moins sur mesure, etc. Donc moi, je ne les ai pas fabriquées. J'aimerais bien maintenant aussi m'y mettre, et c'est aussi un peu ce qu'on organise avec Rennes Antisexiste. Ça fait partie des ateliers qu'on organise, voilà, de la couture, et pour fabriquer nos dispositifs.
En ce qui me concerne, moi, j'ai plutôt utilisé l'AndroSwitch, du coup l'anneau en silicone, que pareil, j'ai acheté. Mais aujourd'hui, on fait des ateliers couture au sein du collectif. Du coup, je m'y suis mis aussi, déjà pour apprendre à coudre et puis pour transmettre le fait de fabriquer. Nous, on appelle ça des jockstraps. C'est des sortes de sous-vêtements, on va dire, qui sont assez légers. Et du coup, moi, je n'ai pas encore porté le mien parce que je ne l'ai pas fini. Il est encore en cours. Mais oui, l'idée, c'est d'en fabriquer. Et on doit être 5-6 à en fabriquer simultanément là, et à se retrouver régulièrement.
Ce sont des associations, la plupart du temps, comme la vôtre, qui met en avant ce modèle de contraception par des permanences ou par des ateliers DIY, comme on en a parlé. Mais comment ça se fait que le corps médical ne mette pas plus en avant ce modèle-là? Comment ça se fait que ce soit des associations, des gens de la société civile qui doivent faire cela?
Parce qu'on vit dans une société très, très patriarcale et que la médecine n'y échappe certainement pas. Et qu'il y a une politique nataliste qui est très ancrée encore dans l'esprit de la médecine, quoi. Et du coup, certains médecins ne veulent pas entendre parler de ça, parce que pour eux, il faut faire des enfants, c'est comme ça que la société existe, et tout ce qui va à l'encontre de ça est vraiment hérétique. Et donc, nous, évidemment, on accompagne les féministes dans cette lutte, quoi, parce qu'on... On est contre ces trucs rétrogrades de ouf.
Mais il peut même y avoir parfois du corps médical un certain rejet de ce modèle contraceptif-là. Ça peut arriver, il y a des témoignages, je crois.
Ouais, il y en a plein. Il y a des médecins qui vont assez vite se focaliser sur pourquoi, en gros, c'est pas potentiellement votre copine qui s'en occupe. Ou alors, ah non, je vais pas vous donner de spermogramme parce que je suis pas d'accord avec cette méthode. Enfin, il peut y avoir des freins. Après, nous, on se refile des noms de médecins qui sont plutôt chouettes et et qui sont OK, pas forcément d'accompagner, mais au moins de filer des ordonnances pour spermogramme et tout ça. Du coup, en s'auto-organisant, il y a un peu des techniques pour... Mais oui, il y en a pas mal qui... Ou pour la vasectomie, notamment, il y a plein de médecins qui refusent de faire des vasectomies à des personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui seraient jeunes et tout ça. Parce que vous le regrettez, et ça c'est des témoignages qui arrivent régulièrement, mais en allant voir des médecins un peu plus chouettes, on peut s'en sortir.
Il faut savoir qu'il y a peu de contre-indications au port d'un dispositif de contraception thermique. C'est des situations très rares qui existent, et c'est pour ça qu'il faut quand même aller voir un médecin, mais il n'y a pas, d'effet secondaire, comme ça a été dit déjà.
On a parlé un peu de vasectomie, justement. La contrainte qui n'existe pas justement avec la contraception thermique, c'est qu'il y a une réversibilité. Est-ce que vous avez choisi ça pour cette réversibilité-là? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Vous dire que c'est pas quelque chose de définitif?
Oui. carrément. Il y a un côté. Si, bah, par exemple, je sais pas ce que je vais faire de mes spermatozoïdes dans les 10 prochaines années, on va dire. Donc, effectivement, je tiens quelque part à ce qu'il y ait ce côté, réversible. Voilà, par exemple. Après, je réfléchis. Moi, je trouve ça très attirant, personnellement, la vasectomie, parce qu'effectivement, c'est très simple. Après, au niveau, on est tranquille et c'est terminé.
Ouais, moi, à titre personnel, j'avais même pas tant besoin de contraception, en tout cas j'en utilisais déjà une qui me convenait bien, qui était le préservatif, qui fonctionnait super, mais j'avais quand même envie de tenter cette expérience aussi, de tout simplement de comprendre c'est quoi s'occuper de sa contraception soi-même, d'aller jusqu'au bout de la démarche, et en ça, ça nous apprend plein de choses sur notre corps, sur voilà.
Mardi dernier, vous avez donc réalisé votre deuxième permanence, après celle du 6 décembre dernier. Quel est le public que vous avez pu recevoir à cette permanence-là? Est-ce qu'il était plus ou moins mixte ou pas du tout?
Là, en l'occurrence, c'est des hommes cisgenres qui sont venus, trois hommes entre 20 et 40 ans, on va dire. Voilà, ça, c'est ouvert à tous et toutes. C'était notre permanence de rentrée, etc. Enfin, c'est un peu... Vous voyez, on est un jeune collectif, donc c'est encore... on n'est encore pas hyper connu et tout, mais on attire, je pense qu'on va attirer différents publics. En tout cas, c'est notre intention.
Il faut dire aussi que sur les autres événements qui n'étaient pas les permanences sur la contraception testiculaire, mais des événements plus publics, comme une projection qui avait été organisée par le Planning Familial 35, Thomas Boulou et Larvor, autour des contraceptions thermiques, contraception testiculaire en général, le public est... On va dire un peu moitié-moitié, mais en fait, on reçoit beaucoup. Après, on discute beaucoup plutôt avec des femmes. C'est plutôt des femmes quand même qui viennent nous parler. Thomas Boulou aussi nous a fait un peu un retour d'expérience là-dessus. C'est beaucoup des femmes qui vont aller chercher leurs amis, leurs copains, leurs frères, etc. Un peu sur l'éveil quand même à ces questions-là de possibilité de contraception chez les hommes cisgenres. Quoi. Sur les personnes qui ont des testicules en général, pardon.
Et le fait que ça soit souvent des femmes donc, qui viennent à ce genre d'événement, est-ce que ça montre que c'est encore un sujet tabou pour les hommes de toucher à cette partie-là du corps, de se contracepter?
Je dirais plutôt que ça prouve qu'il y en a encore beaucoup qui ne se pensent pas concernés par la contraception et qui se disent que de toute façon c'est déjà pris en compte par une partie de la population, ils ne voient pas pourquoi ils le prendraient en compte. Et du coup, nous, on invite évidemment tous les garçons cis notamment à venir à ces permanences-là pour au moins pour discuter, pour se rendre compte de c'est quoi en concret une contraception thermique ou la vasectomie. Mais oui, il y a encore soit du tabou, soit de la méfiance aussi.
Et aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse... en tout cas, on veut accompagner des démarches, discuter et aussi peut-être appuyer sur le fait que se contracepter, c'est pas forcément à travers un slip qu'on porte 15 heures par jour, mais ça peut être aussi en mieux choisissant des préservatifs, en fait, en prenant le temps voir différentes tailles, voir différentes marques, voir différentes textures qui correspondent peut-être mieux à ce dont on a besoin pour sa sexualité, en fait. Mais ce qui compte, c'est de s'intéresser à ça, de prendre le temps et de se responsabiliser.
S'il y a donc justement peu d'hommes qui se contraceptisent encore pour l'instant, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'homme qui se contracepte s'auto-héroïse en quelque sorte et se mette en avant, alors que c'est un geste, quelque chose qui est réalisé par énormément de femmes? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là?
On a publié hier ou avant-hier une page, un extrait de la dernière BD de Bobica qui s'appelle Le cœur des obes, et dans laquelle il y a un membre Christian de Thomas Boulou, le collectif finistérien, là, qui explique qu'en fait, effectivement, se contracepter, c'est juste normal, ça n'a rien d'héroïque, on n'est pas le nouveau Che Guevara ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste que le niveau est tellement bas de la responsabilisation des hommes qu'en fait, le premier homme qui fait des trucs un peu responsabilisants, il est tout de suite, il sort du lot, quoi. Et on trouve ça dommage, mais du coup, on invite les hommes à nous rejoindre et que ça soit banalisé de se contracepter.
Ça soulève aussi des questions un peu plus larges qui se formulent aussi de façon de plus en plus claire sur... le fait que les hommes attirent non seulement l'attention à travers ces démarches-là, mais aussi attirent des moyens, et donc des gens qui vont mobiliser du temps, de l'argent, des compétences pour un peu questionner, accompagner, etc., la contraception des hommes. Et donc ça peut être des questions qu'il faut absolument qu'on se pose, dont on n'a pas encore les réponses, mais de ne pas prendre de la place ou prendre une place trop importante dans les questions que peuvent se poser les féministes.
J'aurais aimé qu'on continue de parler des questions que peut poser cette contraception-là. Quand est arrivée la contraception testiculaire dans les années 70-80, ça avait fait des débats dans les milieux féministes, parce que justement la contraception féminine a permis aux femmes de prendre le contrôle de leur fertilité et de choisir le moment où elles voudraient ou non avoir un enfant. Est-ce que ce débat existe encore, le fait que ce soit un outil qui puisse devenir un outil de domination, finalement, que cette contraception-là puisse devenir un outil de domination, parce que ce n'est plus la femme qui choisit quand elle peut avoir un enfant ou pas?
Bah oui, c'est clair, ça c'est une vraie question de comment on se responsabilise, mais sans prendre toute la place. Et notamment, nous, c'est pour ça qu'on invite beaucoup les personnes à en discuter avec leurs partenaires, que ça doit être fait en concertation avec leurs partenaires et pas « Ah, ça y est, je suis contraceptée, tout va bien ». Et du coup, d'en profiter pour amener ce sujet sur la table, mais aussi amener d'autres sujets comme la sexualité, le consentement, tous ces sujets-là qui sont hyper importants dans les couples.
À chacun de nos événements, à chacune de nos permanences, chaque atelier, on dispose plein de brochures qui traitent de questions de genre, de sexualité, etc. Parce qu'en fait, on tient à ne pas être juste un groupe qui parle de contraception testiculaire, mais en fait d'antipatriarcat en général, pour visibiliser les privilèges, les comportements oppressifs qu'on peut avoir en tant qu'homme et socialiser homme, quoi. Et du coup, en fait, on amène ça. Genre, en fait, ce qu'il faut, c'est discuter avec sa partenaire. En fait, c'est pas forcément contraceptez-vous, c'est laisser le choix dans votre couple à qui va porter la charge de la contraception.
J'avais une dernière petite question. Est-ce que vous avez d'autres activités dont vous voudriez nous parler en ce début d'année, des choses qui vont venir?
Notre petit programme du mois de janvier, qui s'annonce axé autour de la sexualité, et notamment du patriarcat dans la sexualité.
Ouais, mardi prochain, à Rennes 2, on organise une écoute collective du dernier épisode de Un podcast à soi, qui s'appelle « Nos désirs font des ordres ». Comment la contrainte à l'hétérosexualité nourrit le patriarcat. C'est sans inscription, gratuit, ouvert à toutes et tous. On se donne rendez-vous à 18h15 dans le hall du bâtiment L. Et ensuite, on va trouver une salle pour aller faire cette écoute. Donc, il y aura des panneaux qui indiqueront dans quelle salle on se trouve. Voilà, c'est possible de suivre nos actualités sur Instagram. Il y a une page qui s'appelle Rennes Antisexiste. Et c'est aussi possible de nous contacter par mail à rennesantisexiste, tout attaché, @riseup.net.
Et ensuite, on fera des permanences tous les premiers mardis du mois sur les contraceptions testiculaires, en plus de tous les autres événements.
Et ben merci beaucoup à tous les trois.
Merci à vous.
Merci à vous.